Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Cinéscopie, l'émission du cinéma et de la musique de film, de retour pour un dernier numéro. Et oui, dernière émission de la saison. On se retrouvera bien sûr fin septembre, mais pour l'heure, on est ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour bien sûr vous parler de l'actualité du cinéma, l'actualité également du support physique, Blu-ray, DVD. Et nous parlerons aussi de musique de film. Et oui, parce que voilà, on est fan de musique de film, vous le savez. Et d'ailleurs, on en écoute régulièrement, comme tout à l'heure dans cette émission. L'actualité du cinéma, bien vous le savez, c'est la fête du cinéma depuis hier, et ce jusque mercredi. La fête du cinéma qui nous permet quand même d'aller nous rafraîchir à moindre frais dans les salles de cinéma. Et c'est l'occasion de justement d'aller voir des films fleuves, hein, des films comme La Bataille de Gaulle par exemple. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que le premier volet de La Bataille de Gaulle, qui avait commencé sa carrière timidement, eh bien, était en train de regagner du public. Alors, est-ce que c'est lié à la canicule? Est-ce que les gens se sont dit, tiens, ben, si on allait voir La Bataille de Gaulle, histoire de se rafraîchir un petit peu? C'est possible, mais peut-être qu'il y a aussi un bouche-à-oreille plutôt favorable concernant cette Bataille de Gaulle. Et alors, on peut voir d'ailleurs depuis avant-hier, on peut voir La Bataille de Gaulle, deuxième volet, J'écris ton nom, où l'on retrouve bien sûr le même casting avec Simon Abkarian dans le rôle du général, mais également de nouveaux visages comme Thierry Lhermitte dans le rôle du général Giraud. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure dans les chroniques cinéma, voilà, des films que nous avons vus cette semaine et puis même la semaine d'avant. Voilà, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Alors la musique de film, eh bien, j'ai entre les mains deux superbes parutions. C'est Music Box. Music Box Records, qui est un label français, comme ne l'indique pas son nom. Music Box Records qui nous propose tout d'abord un album consacré aux musiques de Claude Bolling, avec trois films de Claude Bolling sur cet album. Tout d'abord une comédie légère, deux grandes filles dans un pyjama, avec une très belle BO d'ailleurs assez sautillante, Claude Bolling léger, pétillant comme on l'aime. Et puis deuxième film représenté sur cette galette, alors là c'est un film culte, Le Mur de l'Atlantique, avec Jean Poiré et Bourvil, bien sûr. Un troisième film figure également sur cet album, c'est un film là par contre qui est un petit peu oublié, est un peu tombé aux oubliettes de l'histoire du cinéma. Ça s'appelle Qui point d'interrogation, avec dans les rôles principaux quand même, eh bien Maurice René et Romy Schneider. Voilà. Donc c'est un superbe album avec des musiques assez différentes, mais qui permettent de brosser finalement un portrait assez intéressant de Claude Bolling. On voit qu'il est vraiment à l'aise dans tous les genres, et c'est un album incontournable si vous aimez Claude Bolling. Et puis bon, voilà, il y a Le Mur de l'Atlantique quand même. Deuxième album toujours chez Music Box, là aussi c'est un album consacré à trois films. Alors tout d'abord Les Caprices de Marie, un film avec Philippe Noiret et Marthe Keller dans les rôles principaux, suivi de Julie Pot-de-Colle avec Jean-Claude Brialy et Marlène Jobert. Et puis L'Ingénu. Alors là, L'Ingénu, c'est un film que je connais moins. Laurent, je ne le connais pas forcément. Ça d'ailleurs, c'est intéressant de découvrir la musique de ce film. Alors, je ne l'ai pas dit, je crois, mais ce sont trois BO composés par Georges Delerue, qui est un compositeur que notre ami Laurent affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Cinéscopie, c'est une émission proposée et animée par Chris Lucas et Laurent Craven. Laurent, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. En tout cas, c'est de beaux cadeaux que nous a concocté Music Box, en tout cas à cette début d'été. Là, vraiment, ils ont forcé la main, parce que là, pour le coup, Georges Delerue et Claude Bolling, c'est quand même vraiment deux compositeurs majeurs, en tout cas, du cinéma et de la musique de films française. Et là, c'est vraiment de la période des années 70, hein,
oui,
en ce qui concerne Georges Delerue.
Oui, parce qu'en fait, je regarde les dates. On a un film de 1970, l'autre de 71, et le troisième 77. Alors, je considère que dans L'Ingénu, il y a des seconds rôles assez croustillants, puisque on y retrouve Hubert Deschamps et Jean Lefebvre. qui ont fait les grandes heures de la comédie française, justement, dans les années 70.
C'est vrai.
Et voilà, en tout cas, on est très content de retrouver Georges Delerue, hein, sur cette parution. Voilà. Il y a d'autres choses qui sortent, hein, évidemment. Il y a aussi le Music Box de Costa Gavras, mis en musique par Philippe Sard. Mais là, ça avait déjà été édité en CD, me semble-t-il. Hein. Voilà. Bon, mon cher Laurent, on va commencer peut-être cette émission en fanfare, à moins que tu aies une petite news à nous annoncer, là, pour commencer.
Non, pas vraiment.
Non, mais écoute. Non, voilà, ah, c'est, oui. Voilà, c'est l'été. Hein. On s'en est bien rendu compte d'ailleurs. Parce que, quand même, c'est vrai qu'on a un peu souffert.
On ne pouvait pas passer à côté. Là.
Non, pas vraiment. Non. Allez, on va se rafraîchir. On va ouvrir un peu la fenêtre. Parce que là, il fait quand même un petit peu. Ça va, c'est quand même respirable ce soir. Et puis, on va se détendre en écoutant une belle BO, une bande originale. Qu'est-ce que tu nous proposes en ouverture de Cinéscopie?
Alors, une musique qui va faire référence à un film un petit peu où il fait chaud quand même. Hein.
Ah.
c'est un western.
Oui, déjà.
Western un peu atypique, je dirais, où on retrouvait Chris Haywood, Ron Adrick, Laura San Giacomo.
Ah, ça y est, je commence à deviner un petit peu, parce que quand tu me dis Laura San Giacomo, c'est une actrice que c'est dommage, on l'a pas vue beaucoup après.
C'est vrai.
Mais je l'aimais bien. Elle était très très jolie, fille en plus.
Alan Rickman.
Bon, ah, là, oui,
on
ah, bah, alors.
Plus. Et puis peut-être un de ces rôles qui ont un petit peu cassé l'image du détective hawaïen, c'est Tom Selleck.
Voilà. Eh bien oui, c'est ça, Tom Selleck. Tom Selleck qui a une carrière au cinéma finalement un petit peu inégale. C'est vrai qu'il n'a pas eu le succès escompté, parce que à la télé, c'est vrai que Magnum, voilà, ça en a fait vraiment une star. Et puis bon, il a fait une belle carrière à la télé. Mais au cinéma, alors il a loupé le coche sur Indiana Jones, on le sait. Puisque Spielberg avait pensé d'ailleurs en fait à Tom Selleck à la base. Puis il n'avait pas pu s'y libérer, Tom Selleck, eu gare à ses obligations concernant Magnum.
Ben oui.
Et là, effectivement, il joue. Alors il a quand même fait, parce que. Une sorte de succès d'année de Indiana Jones, ça s'appelait Aero to China en anglais. Alors comment en français c'était quoi déjà? Les aventuriers de... C'est pas les aventuriers de l'Arche perdue. Hein,
non.
Bon, on va le retrouver, mais enfin, c'est un film. Alors c'est un film où il joue le rôle d'un aviateur. Ça se passe aussi dans les années 30, 40, me semble-t-il. C'était pas mal, hein. Mais bon, c'était quand même plus modeste, sa production était plus modeste. Mais il y avait une musique, là aussi, de John Barry, qui vient d'ailleurs de ressortir. Puisqu'on parle de l'actualité, musique des films.
83, c'était Les Aventuriers du Bout du Monde.
Les Aventuriers du Bout du Monde, exactement. Voilà. Et en anglais, c'était High Road to China.
Ouais.
C'était pas mal.
Au côté de Bess Armstrong.
Oui, qui était très très bien aussi. Ouais, oui. Ouais. Alors là, on est avec. C'était la Chine, mais dans ton western, on est où finalement?
On est en Australie.
Ah ben voilà, c'est
parce
pour
qu'en
ça
fait,
que c'est atypique.
C'est Quigley l'Australien.
Quigley l'Australien.
Un film de Simon Windsor. Film certes atypique, mais musicalement, par contre, c'est de toute beauté, parce que c'est un compositeur qu'on affectionne tout particulièrement. Dommage qu'il nous ait quittés, parce que voilà, je pense qu'il était capable de nous proposer des bandes originales encore d'excellente qualité. Sa marque de fabrique, eh bien, c'est les musiques surtout épiques. Hein, il a fait des musiques un petit peu plus romantiques aussi, mais c'est plutôt, je dirais, le compositeur qui est le musicien de l'aventure, de l'épisme. Donc voilà, c'est le compositeur de Conan le Barbare, mais il n'a rien fait d'autre. Et quand on parle de western, En tout cas, moi, je pense que sa partition la plus, je dirais, incontournable, c'est Lonesome Dove.
Oui, je pense que là, il a vraiment fait un classique du genre, ouais, avec Lonesome Dove, en effet. Ouais. Mais bon, The Quigley Down Under, c'est quand même bien réussi aussi. Et puis, c'est une collaboration avec Simon Windsor, parce qu'il a travaillé plusieurs fois avec ce réalisateur.
Oui, on est, alors, j'ai pas dit l'année, mais on est en 90.
Ah oui.
Et donc là, c'est une période qui a été assez prolifique d'ailleurs pour le cinéma, hein, autant sur le registre du western, du polar. Il y a eu quand même vraiment de très bons films à cette époque-là. Et donc, musicalement, on va écouter le final de Quigley, il y en a à peu près pour 5 minutes. Et donc, si vous ne connaissez pas cette bande originale, et si, je le dis assez fréquemment, mais si vous êtes un chineur et que vous tombez sur cette édition, alors là, ce qu'on vous propose, c'est une édition qui avait été éditée par Prometheus et MGM Records. Et donc, si vous la trouvez, parce qu'en fait, c'est une très très belle édition, eh bien il faut bien sûr ne pas hésiter à vous la procurer. Voilà, donc on écoute cela et on se retrouve juste après pour parler des sorties à la vidéo. Alors c'est vrai que bon, ça va commencer un petit peu à se ralentir, on arrive fin juin, début juillet. Il va y avoir quand même quelques sorties, mais bon, en attendant vraiment les grosses sorties de fin août, septembre, voilà, pour la rentrée. Allez, tout de suite, Basil Poledouris. rubrique vidéo.
Et oui, l'actualité de la vidéo, c'est maintenant dans Cinéscopie. Je vous rappelle que vous écoutez RTF, bien sûr, sur le 95.4. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet, sur le site de Radio Trouble Fête. Et puis, vous pourrez nous réécouter en podcast. D'ailleurs, c'est important de le préciser. Alors, l'actualité de la vidéo, c'est la sortie cette semaine, la réédition, mais en ultra haute définition, du film de Dario Argento, Ténèbres, un film sorti en France en avril 1983. Ténèbres permet à Dario Argento de renouer avec le giallo, parce que je crois que son dernier giallo, c'était Des frissons de l'angoisse, et après il avait enchaîné avec des films d'horreur surnaturelle, à savoir Suspiria et Inferno, des chefs-d'œuvre, hein, on peut dire des chefs-d'œuvre du cinéma fantastique, en particulier Suspiria. Et donc début des années 80, Dario Argento voilà revient à ses premières amours en quelque sorte avec ce film Ténèbres, qui d'ailleurs, comme ne l'indique pas son titre, est un film assez solaire, enfin en tout cas très lumineux, parce qu'en fait il y a très très peu de séquences nocturnes en fait dans ce film. Le pitch, c'est très simple, hein, c'est un écrivain, Peter Neal, un écrivain américain, auteur de thrillers assez sanglants, assez glauques, qui se rend à Rome pour faire la promotion de son dernier livre intitulé Ténèbres. Et en arrivant à Rome, eh bien un certain nombre de meurtres sont commis dans l'entourage de Peter Neal. Et selon des modalités d'ailleurs qui rappellent les meurtres décrits dans ses romans. Voilà, donc c'est un peu le pitch de départ. Dans le rôle de Peter Neal, c'est un acteur, moi, que j'aimais bien, qu'on a vu surtout dans des seconds rôles, et puis à la télévision dans une série qui s'appelait Matt Helm. C'est Anthony Franciosa. Antonio Franciosa, alors il y a un beau casting dans le film, hein, de Dario Argento. À ses côtés, on y retrouve John Saxon, Daria Nicolodi, John Steiner, en particulier, voilà. Et c'est un film magnifiquement photographié. Je crois que l'intérêt, d'ailleurs, un des intérêts du film, c'est que non seulement on retrouve évidemment cet art de la mise en scène, et notamment de la mise en scène des meurtres particulièrement spectaculaires, propres à Dario Argento, et également la qualité de la photographie associée à cette mise en scène. Et là, c'est Luciano Tovoli qui assure la photo, qui est parfaitement rendu par l'UHD que nous propose Camélia, parce que c'est l'éditeur, c'est Camélia, qui avait édité il y a quelques mois déjà quelques films de Dario Argento dans un très beau coffret. Et d'ailleurs, à l'occasion, les films de Dario Argento étaient ressortis en salle, des reprises, hélas, essentiellement visibles sur Paris. Mais voilà, donc le Camélia nous propose de retrouver Ténèbres, de le redécouvrir en ultra haute définition, et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors en plus, il y a des bonus très intéressants, notamment un bonus, c'est l'interview de Maitland McDonald revient sur la carrière de Dario Argento et qui analyse aussi ce film Ténèbres. Maitland McDonald, qui est une spécialiste de Dario Argento et qui avait écrit dans les années 80 un livre assez, référent, hein, c'est peut-être un des meilleurs livres écrits sur l'œuvre de Dario Argento. Voilà, il y a Bertrand Bonello aussi dans les bonus, et également, ça c'est aussi intéressant, quoique peut-être un petit peu plus anecdotique, l'interview de Eva Robbins. Eva Robbins qui joue un rôle important dans ce film Ténèbres. Alors je vais pas spoiler, hein, le film, bien sûr, je vais pas vous divulguer ce film, qui, si vous ne l'avez pas vu, était vraiment à découvrir. Un film qui, à l'époque de sa sortie, était sorti était interdit aux moins de 18 ans. Moi, je m'en souviens très bien, puisque à l'époque de sa sortie, j'avais voulu aller voir le film, et je n'avais pas pu rentrer dans la salle. On m'avait exigé que je produise ma carte d'identité. Évidemment, je n'avais pas pu le faire. Et du coup, je n'avais pas pu découvrir le film en salle à l'époque de sa sortie. Et voilà. Mais peut-être que les films aujourd'hui, on est un petit peu blasé. Le film n'est plus interdit qu'au moins de 12 ans. Donc c'est un petit peu curieux, mais il y a pourtant quelques scènes assez gratinées dans ce film. En fait, d'ailleurs, ça va crescendo. C'est-à-dire, plus ça va, plus c'est gore dans le film. Mais voilà. Mais l'intérêt du film, il est peut-être ailleurs, effectivement, d'une sorte d'abstraction néo-futuriste. Je vous en dis pas plus, parce que ça a été tourné dans un quartier de Rome assez peu représenté, finalement, dans le cinéma italien. Peut-être chez Antonioni, peut-être. Mais voilà. Donc il y a un côté, d'ailleurs, antonionesque dans ce film, dans l'utilisation, la gestion de l'espace. Voilà, donc Ténèbres, c'est franchement mon conseil de ce soir. Alors, évidemment, c'est un film de genre, mais enfin, quand c'est Dario Argento qui réalise, et avec Luciano Tovoli à la photographie, c'est fantastique. Alors, maintenant, on va passer à des films de genre un petit peu moins réussis. On peut même dire que ce sont des films, des nanars, on peut dire. Mais on appelle les nanars, on va dire des mauvais films, mais sympathiques. Hein, voilà. Alors, avec un duo. Alors, ces films sont sortis déjà il y a un certain temps, enfin, il y a quelques semaines, mais on peut toujours se les procurer. Je crois qu'on les avait signalés quand même. Alors, ce sont deux films érotiques. Tout d'abord, Caligula et Messaline, réalisé en 1981 par Antonio Passalia, avec dans les rôles principaux Vladimir Radjovic, Betty Roland et Françoise Blanchard. La musique du film est signée Jenny Del Orso. Et dans ce film, l'empereur romain Caligula affronte une conspiration menée par sa propre sœur. Bon, un péplum érotique, fauché, faut bien le dire. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs dans ce film, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des stock shots, c'est-à-dire que c'est des extraits de films. Voilà, c'est des séquences empruntées à d'autres films, comme Le Colosse de Rhodes, par exemple. Donc ça, c'est assez curieux. Le film vaut surtout pour ses scènes érotiques. Coproduction franco-italienne, donc, de 1981, interdite aux moins de 18 ans à l'époque, aux moins de 16 aujourd'hui. Ce sont les éditions Montparnasse qui nous permettent de redécouvrir ce film qui arrive finalement porté par le succès du film de Tinto Brass, Caligula. Qui est pour moi un chef-d'œuvre. C'est vrai que Caligula est un film qui a été pas mal décrié. Un casting incroyable, Malcolm McDowell, Hélène Mirren, John Gielgud, etc. Donc le succès finalement du Tinto Brass va engendrer toute une série de rejetons plus ou moins réussis, plutôt moins d'ailleurs en général. On se souvient notamment de Caligula, la véritable histoire de Joe D'Amato, qui surfait avec le porno là carrément. On était un petit peu dans cette mouvance. Donc Caligula et Messaline. Et deuxième film proposé par les éditions Montparnasse, Les aventures sexuelles de Néron et Poppée, réalisé par Vincent Dawn, alias Bruno Mattei. Un film où l'on retrouve dans les rôles principaux Rudy Adams, Patricia Derek et John Turner, toujours une musique signée Giacomo Del Orso. Film réalisé en 1982, dans ce film qui est en fait une sorte de suite à Caligula et Messaline, Néron, devenu empereur grâce à sa mère, auquel il est attaché par un amour incestueux, Néron donne libre cours à de multiples plaisirs charnels. Voilà, le scénario s'arrête là pour ses aventures sexuelles de Néron et Poppée. Si vous aimez les orgies, les étreintes saphiques, les sévices divers et variés, c'est pour vous, ce film. Vous pouvez acheter le diptyque, Caligula et Messaline. C'est quand même le témoin d'une époque, ces deux films. Je me souviens des affiches. D'ailleurs, les affiches sont reproduites sur les jaquettes. Ça donne envie. Comme souvent d'ailleurs dans les films italiens, souvent les affiches des films italiens sont sublimes, et on est forcément déçu d'ailleurs quand on va voir les films en salle après, quoi.
Ça me fait penser à, aux très belles affiches qui préfigurent certains films René Château, qui sont excessivement belles, et quelquefois, bah, voilà, c'est, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, enfin, qualité artistique, je parle.
C'est vrai que l'emballage, en général, vaut plus que voilà, ce qu'il contient. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Alors, cela dit, je ne sais pas si on en a parlé la semaine, là, il y a 15 jours déjà, mais je voudrais rappeler ce film quand même, parce que pour moi, c'est un des meilleurs films sortis. C'était déjà la fin 2025, je crois. Marty Suprême, le film de Josh Safdie. Je ne sais pas si tu en avais parlé, Laurent, de ce Marty Suprême. À New York, en 1952, un jeune prolétaire passionné de tennis de table rêve de s'imposer dans son sport et est prêt à tout pour y parvenir. Ce jeune prolétaire, eh bien, c'est Timothée Chalamet qui l'interprète, à ses côtés Gwyneth Paltrow, Odessa Azione. Un film fou, je trouve, une mise en scène ébouriffante. C'est un film qui vraiment nous emporte, alors que c'est quand même un film assez long, comme 2h40, 2h50, mais on s'ennuie à aucun moment. C'est un enchaînement de péripéties. Voilà, mais j'en dis pas plus. C'est un film qu'il faut vraiment découvrir ou redécouvrir. Et effectivement, Timothée Chalamet, qui est coproducteur du film, s'est investi vraiment corps et âme dans ce rôle. Un personnage, il faut bien le dire quand même, qui n'est pas aimable. Et ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Qui va quand même, va quand même évoluer quand même au cours de cette histoire. Voilà. Mais Marty Suprême, un film tout à fait passionnant qui nous est proposé en ultra haute définition par Metropolitan. Alors c'est une édition combo avec le Blu-ray UHD et puis le Blu-ray standard. Là, en termes techniques, bah, rien à dire, l'image est nickel chrome. Voilà, c'est une des plus belles sorties, je pense, cinéma de ces jours-ci. Marty Suprême, je vous le conseille, hein, si vous ne l'avez pas vu en salle, il faut vraiment le découvrir. Au-delà de la polémique, hein, qui a entaché un peu tout ça, parce que c'est vrai que Timothée Chalamet peut-être que le personnage qu'il joue dans le film a un peu déteint sur lui, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu critiqué son arrogance. Voilà, c'est vrai qu'il a tenu des propos un petit peu, voilà, qui ont offusqué certains. Mais il faut aller au-delà, et puis c'est vrai que vous allez prendre un véritable pied, parce que c'est quand même jubilatoire ce film, c'est vraiment jouissif. Vous pouvez y aller. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Eh bien, je voulais vous parler du film. Mais je crois que tu en as parlé, Laurent, Le Rêve américain. Je me demande si tu n'as pas évoqué ce film. Film avec Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. L'histoire de deux banlieusards qui mettent tout en œuvre pour monter leur agence de joueurs de basket dans l'optique de leur décrocher des contrats en NBA. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, ce film, Le Rêve américain. Film réalisé par Anthony Marciano, qui nous est proposé par Gaumont Vidéo. Tu l'as vu en salle, je crois, me semble-t-il, Laurent.
Oui.
Peut-être pas emballé plus que ça, je crois.
Non.
Bon, bah, écoute, voilà.
Après, le film est assez correct, hein, mais voilà. En tout cas, j'ai été resté un petit peu à distance du film.
Très bien. Bon, bah, écoutez.
En général, je suis assez fan de Raphaël Quenard.
Oui.
Mais là, je trouve que véritablement. J'ai pas été plus que ça, entraîné dans leur pérégrination.
Très bien. Bon, bah, écoutez, en tout cas, si vous vous aventurez à découvrir ce film, sachez que c'est Gaumont qui vous le propose, en plus, dans un Blu-ray dont les images sont superbes. Donc vraiment une très belle édition. Bon, par contre, en termes de bonus, c'est assez chiche, puisqu'il n'y en a pas, tout simplement. Voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Voilà.
Bah, peut-être que ça annonce peut-être une autre édition un petit peu plus fournie, un petit peu plus tard aussi.
Voilà. En tout cas, mon conseil, vous l'avez compris ce soir, c'est bien sûr Dario Argento, avec ce film Ténèbres qu'il faut redécouvrir, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, je me souviens, il a été plutôt assez mal accueilli par la presse, et sa carrière en salle, a été plutôt brève d'ailleurs. Voilà, avant que Argento ne revienne à ses films flamboyants, comme avec Phénoména, par exemple, un petit peu plus tard. Voilà, en tout cas, voilà ma sélection. Alors, quel, voilà, petit film érotique, voilà, voilà, italien. On a fait dans l'italien, finalement, surtout ce soir, mon cher Laurent. Alors, je me tourne vers toi, parce que j'imagine que tu as une belle sélection, quand même, à nous proposer ce soir.
Alors, c'est des films à venir, qui vont d'ailleurs pas tarder à arriver dans les bacs. Ça, c'est au cours du, entre autres, au cours du mois de juillet. Un film qu'on avait vu, d'ailleurs, c'était un biopic, sur la boxeuse de haut niveau Christy Martin,
ah oui,
de la fin des années 80 aux années 2000, qui sera édité le 17 juillet par Metropolitan. Et donc, pour le coup, ça va débarquer, comme je le disais, le 17 juillet, c'est Christy. Donc, on sera forcément dans les starting blocks.
Oui, on avait bien aimé le film.
Oui, le film était vraiment, en tout cas, une belle ouverture sur cette sportive qui, en tout cas, a été bien mise en lumière à travers ce film.
Mmh. Et très belle interprétation de Sidney Sweeney sur ce.
Vraiment un ton juste, une bonne distance. Franchement, en tout cas, une belle réussite.
Oui, c'est une bonne surprise.
Autre film, c'est alors là, c'est, je vous parle vraiment des grosses sorties. Ça, je crois qu'il faut, ce film-là, il faudra attendre fin juillet pour le découvrir. Encore un film qui nous a passionné dans Cinéscopie. C'est un drame historique. Au budget assez conséquent, parce que ça fait partie de ces grandes productions à la française. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. On le voit à travers d'ailleurs la bataille de Gaulle aujourd'hui. Mais là, le film a requéri 30 millions d'euros quand même pour pouvoir voir le jour. Donc c'est quand même pas c'est quand même un bel investissement.
Ah oui, oui, quand même.
Mais ça a porté ses fruits, parce que ce film de Xavier Giannoli a été quand même un bon succès. Et c'est encore Gaumont Vidéo qui était le producteur de ce film. C'est Les Rayons et les Ombres, avec Jean Dujardin, Auguste Dill. Et donc, c'est un film qui aborde les méandres et les ambiguïtés de la collaboration avec les Allemands. Et donc, en tout cas, là encore, c'est une belle ouverture, parce que c'est aussi une très très bonne distance. Très bon metteur en scène, Xavier Giannoli. On l'avait déjà vu avant dans ses différentes œuvres. Et donc là, pour le coup, voilà, belle réussite. Et donc ça va sortir le 29 juillet. Voilà. Dans pas mal d'éditions, d'ailleurs.
Non, mais c'est bien, parce que c'est un film qui vraiment mérite d'être. Parce que je sais pas, il a eu une carrière, il n'a peut-être pas eu le succès là aussi escompté. Il a eu une carrière honorable, je pense, mais. Je m'attendais à mieux, parce que le film, franchement, était une réussite.
Et peut-être le format aussi, qui était peut-être un frein. Alors c'est
le film est assez long aussi,
voilà,
je crois.
Voilà, c'est un peu l'intérêt de sa sortie en physique, c'est de lui donner une deuxième vie. Et je pense que réellement, en tout cas sur le sujet, vu que c'est pas un sujet qui a été fréquemment abordé au cinéma, je pense que ça vaut vraiment le détour, et peut-être aussi le détour d'être revu, parce que il y a quand même vraiment je dirais une compétence et une maîtrise, tant sur l'écriture que sur la direction d'acteur, sur le cadrage, enfin vraiment c'est vraiment du beau travail. Autre film, là on change de registre, c'est un film dramatique qui va sortir le 7 juillet, donc chez Ad Vitam. Et donc c'est en fait un film qui s'intitule Rue Malaga. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film en tout cas qui a une assez bonne ouverture sur Limoges, parce qu'il est resté quand même, quand même quelques semaines à l'affiche.
Oui, je l'ai loupé, ouais, mais il paraît que c'est pas mal. Hein.
Belle production espagnole. Mmh. Et donc, le Blu-ray qui va sortir, autant que le DVD d'ailleurs, bénéficiera d'un entretien avec l'actrice Carmen Maura, en compagnie de la réalisatrice Mariam Touzani. qui avait réalisé le bleu du Caftari, et donc il fera office là encore de supplément. Voilà. Ça et là, on va parler un petit peu aussi de séries. Alors, il y a une série qui a été diffusée, je crois, sur France Télévisions, me semble-t-il, qui s'intitule Enchaîné, qui est en fait une série sur le milieu de l'esclavage, qui va débouler. C'est une chose assez rare maintenant, parce que les séries sont souvent destinées à la vidéo à la demande et non plus en support physique. Et donc, du coup, on peut se féliciter que France Télévisions ait décidé que, cette histoire d'esclavage dans la plantation de l'île Bourbon, donc l'actuelle île de La Réunion, donc ça en est en 1806, avec Olivier Gourmet, donc qui va débarquer le 21 juillet, le 17 juillet, et il y a une autre série le 21 qui est en fait Belphégor, qui va débarquer avec Vincent Elbaz, Horatica et Cadmérade. Ça sera véritablement un bel hommage aux séries récentes, contemporaines, qui ont été diffusées sur France Télévisions. Et alors, moi, ça a marqué un petit peu ma jeunesse, parce que c'était une très belle production SF. Et donc, c'est plutôt intéressant de parler de sa réédition qui est dans les cartons. C'est en tout cas une série d'animation. Si je vous dis par exemple Ulysse, reviens.
Oui, alors attends, Ulysse 31.
Voilà. Qui était chanté par
Noam ? Non, je ne sais plus.
Pas du tout.
Non. Non, mais voilà,
par Jacques Cardona.
Oui, alors.
Dans le deuxième générique d'ouverture d'Ulysse 31, qui ne croyait pas si bien dire, puisque la série animée culte et co-créée par les Français, entre autres.
Oui, non, attendez. J'y étais plus là, vas-y.
Jean Chalopin.
Ah bah oui, bien sûr.
Auteur des...
De l'inspecteur Gadget.
Ah, pas du tout. Les mystérieux cités d'or.
Ah, mais je croyais que Chalopin, il était derrière aussi les Gadgets.
Et Nina Wallmark, qui était à l'origine des Mondes engloutis, qui en fait deux grands succès du cinéma d'animation. Et donc, il fait son grand retour 45 ans après sa première diffusion sur FR3.
Eh ben oui, mine de rien.
Et donc, cette relecture SF de l'Odyssée d'Homère, qui s'est en effet offert d'ailleurs une nouvelle jeunesse via une remasterisation haute définition des bobines 35 mm originales, conservées au Japon et en France. Et donc avec un étalonnage entièrement revu pour un rendu homogène. Donc les anciens masters d'ailleurs avaient de gros problèmes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, comme référence, vous aviez le costume d'Ulysse qui pouvait varier d'un épisode à un autre. Là, il va être vraiment quasi uniforme sur toute la série. Et donc ça, c'est vraiment un petit détail que précise le superviseur de la restauration, qui a fait l'objet d'une diffusion sur la chaîne Manga ces dernières semaines, avant une parution Blu-ray annoncée par le groupe Media One, à une date encore indéterminée, mais on vous tiendra au courant, parce que c'est quand même une série qui est très attendue, cas dans une belle restauration, parce que me semble-t-il qu'il y avait eu, il y a quelques années, une belle édition en termes de packaging DVD, mais qui souffrait quand même vraiment d'une qualité technique assez médiocre. Donc voilà, c'est chose faite et on n'attend plus que la date, mais je pense que peut-être ce genre de sortie sera annoncé peut-être à la rentrée ou éventuellement en fin d'année, parce que voilà, peut-être dans un très beau coffret qui pourra charmer les aficionados de la série.
Et bien finalement, Ulysse revient. Et voilà, c'est une bonne nouvelle.
on parlait aussi de films, je dirais, fantastiques, d'horreur, la franchise Réanimator, Un film de 1985 et d'édition Collector. Et c'est Sidoni qui s'est en effet donné les moyens pour cette sortie du 17 juillet. Avec une édition Blu-ray du film, joint la version cinéma en 4K, la version intégrale en haute définition, des pistes DTS. Dolby Digital 5.1, un Blu-ray avec 2h10 de supplément, avec en version originale sous-titrée, et un livre de 52 pages. Voilà. Avis aux amateurs.
Oui, alors nous, on est amateurs. On avait déjà acquis d'ailleurs l'édition Collector éditée chez Ecstasy au Film, oui, qui était également une superbe édition.
Oui, oui. Allez, on reste dans l'horreur, mon cher Chris.
Oui, horreur et damnation.
Allez, une production de Michael Bay, c'est le remake en 2003 avec Jessica Biel, réalisé par Marcus Nispel, mettant en scène de nombreux clips musicaux, dont 4 de Mylène Farmer au passage. Voilà. On va voir débarquer le remake de Massacre à la tronçonneuse.
Eh oui.
Et donc là, pour le coup, c'est au planning de l'éditeur ESC, qui est aussi distributeur des grands éditeurs de la vidéo. Et donc le film va débarquer le 8 juillet, donc en Ultra HD Blu-ray, avec là encore un livret de 52 pages, une affiche, des dizaines de photos. Et parmi les bonus, eh bien, 3 commentaires audio, les coulisses du tournage et ainsi que des scènes coupées. Voilà. Donc, encore une belle édition proche du complet. Donc, ça va secouer quand même notre tirelire, quand même. Hein.
Oui, parce qu'en plus, il y a des choses intéressantes qui arrivent encore, comme le silence qui tue, là, tout ça, des choses comme ça.
Allez, on continue. Représentant de la Chine, parce qu'il ne fallait quand même pas oublier la Chine, pour les Oscars, eh bien, Dead to Rights. Le studio photo de Nankin, je vous en avais un petit peu parlé d'ailleurs.
Ah oui, il paraît que c'est très très bien ça.
Sur le sac de la ville par les Japonais en 1937, déjà auréolé de multiples récompenses dans son pays et gros succès au box-office avec plus de 370 millions de dollars de recettes, eh bien il sortira. Alors là, c'est un peu désespérant parce que. Quand on parle de l'éditeur, tout de suite, c'est vrai qu'on pense que voilà, le film n'aura pas toutes ses chances. C'est Blackout, en fait, il n'y aura qu'une édition DVD.
Ah, alors là, pour un film comme ça, c'est un peu dommage.
Bah oui. Et donc, on va le voir débarquer le 17 juillet. Alors, c'est pas définitif, hein, parce que si vraiment le film marche, peut-être que l'éditeur révisera sa copie et nous proposera de la haute définition en fin d'année. Mais j'ai un petit peu peur quand même. Parce que Blackout est un petit peu timoré quand même. Voilà.
Bon, après c'est mieux que rien, mais on aurait aimé une production comme celle-ci d'avoir un Blu-ray même en UHD.
Allez, encore deux titres.
Allez,
et puis on en termine.
Allez.
Voilà, c'est cadeau.
Mais oui, c'est la dernière, on y va. Ouais.
Allez,
on se refuse rien.
Un film fantastico, horrifico, féministe, basé sur le mythe de la fiancée de Frankenstein, au casting en titane, avec notamment l'oscarisé Jesse Buckley et Christian Bale en créature, qui est calé pour le 8 juillet. Et le film s'intitule The Bride. Voilà. Il va y avoir, bien sûr, une multitude d'éditions, dont une édition métal. On va pouvoir bénéficier d'un son au cordeau, en Dolby Atmos, et un combo Blu-ray Ultra HD. Allez, ça, c'est que du bonus pour l'été.
Voilà.
Et pour en terminer,
oui.
Un inédit de choix.
Je pensais que tu n'allais pas en parler, je m'inquiétais. Hein, parce que je devine de quoi tu vas parler. Que c'est incontournable.
Ah,
c'est peut-être pas ça. Hein,
c'est incontournable. En Blu-ray français. Donc déjà, voilà.
Alors là, c'est peut-être pas...
Le film paraîtra le 17 juillet. Alors, chez un éditeur qui était extrêmement prolifique, et là, il se fait un petit peu plus rare, mais on se souvient de ses éditions Mediabook, de grands classiques qui étaient vraiment superbes à l'époque. C'est Wild Side. Et donc là, il propose ce film, ce drame policier de 1973.
Ah non, alors là, on n'était pas sur la même longueur d'onde, si je puis dire, là, sur ce film-là. Mais
on y retrouve un grand acteur, c'est Sean Connery.
Attends, vas-y, continue.
Et donc, le film a été réalisé par Sidney Lumet.
Ah oui, oui.
Et le film s'intitule The Offense.
Génial.
Et donc, c'est un nouveau master rénové qui nous est proposé. Donc là, forcément, on va se jeter dessus dès sa sortie, le 17 juillet. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que l'été n'est plus que, on va dire, c'est plus le désert des sorties vidéo. C'est que même l'été,
il se passe des choses.
Il se passe des choses, et surtout dans le fond de catalogue. Donc, franchement, c'est vraiment à se procurer d'urgence quand le film va sortir. Alors il y a des bonus inédits, des interviews du réalisateur, du directeur artistique, de la costumière et aussi du compositeur.
Ah mais alors attends, je ne sais plus d'ailleurs qui est sur la musique de ce film. Pourtant je l'ai vu bon, écoute, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mais je pensais que tu allais nous parler aussi, ça sort théoriquement le 17 juillet, de la trilogie Le Syndicat du Crime, puisque tu es un expert du cinéma asiatique. Voilà, donc, c'est John Woo, Tsui Hark, Le Syndicat du Crime. Alors, ça sort normalement chez Metropolitan HK Video.
Oui, c'est une grande partie, c'est HK, oui.
Ouais, c'est HK. Donc, c'est une émission collector limitée avec. Ouais, les trois films en UHD, deux Blu-ray de bonus, un livret de 44 pages, trois affiches, neuf photos. Enfin bref, c'est l'édition ultime, Le Syndicat du Crime, franchement. Voilà, ça sort dans 15 jours, un peu plus.
Je voulais juste rajouter, oui. Parce qu'on a parlé du compositeur.
Oui, parce que voilà.
Le compositeur, en fait, ce n'est autre que Harrison Birtwistle.
Eh oui! Bah écoute, il fallait le citer quand même.
Voilà, qui est en fait un des responsables de l'atmosphère sombre et oppressante de ce film avec Sean Connery.
Oui, là je pense que.
Je sais pas si je l'ai dit, mais ça a été réalisé par Sidney Lumet au passage.
Ouais,
je sais
ouais.
Pas si je l'ai précisé.
Non, tu l'as dit, oui, non, mais. Voilà. Un des excellents films de Sidney Lumet. Un peu, on s'en souvient, pas celui dont on se souvient le plus, mais pourtant, quand vous allez le voir, vous n'allez pas l'oublier, parce que Sean Connery, j'en dis pas plus, mais je crois qu'on l'a rarement vu comme ça dans un film. Et voilà, The Offense, alors voilà, on va se jeter dessus, comme tu l'as dit. Laurent, d'autres petits conseils? Non, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Oui.
On se réserve pour la rentrée.
Tout à fait. Absolument.
On vous donnera l'eau à la bouche quand vous rentrerez de vacances.
Exactement.
Et voilà, on vous proposera quelques petites pépites qui sont sorties pendant l'été et voir à la rentrée aussi. Voilà, parce que c'est un mois où il y a quand même beaucoup, beaucoup de sorties. Alors, certes, il y a aussi soit des rééditions, mais souvent les éditeurs qui commencent à composer des coffrets pour la fin de l'année et qui regroupent certains films par thème. Et donc, ça peut être l'occasion, voilà, sur des films que vous n'avez pas forcément vu, et bien de pouvoir les découvrir au juste prix, je dirais. Et donc, voilà.
Parfait. Et bien, nous allons faire une petite pause musicale, puisqu'on est au mi-temps de l'émission. Tout à l'heure, nous avons écouté Basil Poledoris avec ce western Quigley Down Under, Quigley l'Australien, avec Tom Selleck. Et puis, maintenant, alors parce que c'est Laurent qui est aux platines, alors je ne sais pas ce qu'il a calé au juste. Il va essayer de nous faire deviner peut-être, parce qu'il est un peu taquin. Je sens qu'il a envie qu'on joue. Voilà. Bon, il n'y a rien à gagner, hein, que son estime sans doute. Mais voilà. Alors on s'achemine vers quoi là tout
alors,
de suite.
Alors, on va rester dans. je dirais le dépaysement, hein, avec Quigley, on était parti
en Australie,
voilà, dans les grandes étendues australiennes. Là, on est plus dans le registre du fantastique, qui est à l'origine d'un projet à plusieurs volets, je dirais. Là, en tout cas, le film remonte à 1999.
Alors, fantastique, plusieurs volets, 1999. Voilà, on a déjà quelques éléments.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre
Là, j'avoue, pour l'instant, je sèche un petit peu.
On va essayer de donner quelques petits, indices. Allez, si on va peut-être parler de la distribution, peut-être quelques petits seconds rôles. Hein.
Oui, ne commençons pas par les têtes d'affiche.
je pense que ça va vous aider. Voilà. Oui. Alors, c'est une production universelle. Et donc, on y retrouvait John Hanna.
Ah, ça y est, je l'ai.
Arnold Vosloo.
Ah oui, ça se confirme.
Odid Fehr. Allez, l'actrice principale, Rachel Weisz.
Formidable d'ailleurs, j'adore cette actrice.
Et l'acteur, Brendan Fraser.
Dans un rôle un petit peu qui peut faire penser à Indiana Jones d'ailleurs.
Hein, tout à fait. Je pense qu'on est assez proche. Hein. On était peut-être un petit peu en manque d'ailleurs de films dans ce registre-là à l'époque.
Ouais, c'est vrai.
Et la réalisation est confiée à Stephen Sommers. Et c'est vrai qu'il a révolutionné le mythe de la momie à travers cette trilogie, je crois, à la base.
Oui, au moins trois films.
Il y a trois films. Parce qu'après, il y a eu. Ça a été repris par Tom Cruise. Et donc là, pour le coup, la musique était signée Jerry Goldsmith.
Ah oui, alors là, par contre. Voilà. On est dans le haut du panier. Hein,
voilà. Alors, on a écouté tout à l'heure Basil Poledouris. Maintenant, Goldsmith dans une excellente partition.
Tu me gâtes, là.
Là, c'est du symphonique pur et dur. Le dépaysement au plus complet. Et surtout, les cuivres chez Goldsmith, les percussions qui sont toujours bien présentes et qui donnent vraiment du relief. Et du découpage à sa mélodie qui fait qu'en fait on avait un véritable chef-d'œuvre pour ce premier volet réalisé en 99. Allez, on est parti pour 5 minutes 40 de musique goldsmithienne, si on peut dire.
Oui.
et on se retrouve juste après pour vous parler peut-être de la sélection des films de la semaine. Qu'est-ce qu'on va vous parler d'ailleurs?
Alors là, suspense.
C'est qu'on ne le sait même pas.
Non, on ne sait pas non plus.
On va y réfléchir. Voilà. Allez, on a 5 minutes pour y réfléchir et puis on vous propose une petite balade, un petit voyage proche des pyramides avec une momie qui est un petit peu quand même agaçante. Hein. Elle est cruelle aussi. Hein.
Oui. Elle n'est pas facile. Hein.
Allez, tout de suite, Jerry Goldsmith et on se retrouve juste après pour la rubrique cinéma.
bien voilà, c'était la musique de Jerry Goldsmith pour ce film La Momie, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz, film réalisé par Stephen Sommers en 1999. Et après la musique de Goldsmith, le silence qui suit est encore de Jerry Goldsmith, évidemment. On le disait de Mozart, mais peut-être que Goldsmith c'est de Mozart, de la musique de film. Bon, tout ça se discute, hein, parce que évidemment il y a quand même John Williams, Ennio Morricone, hein, qui sont quand même là aussi de sérieux prétendants, en tout cas des génies dans leur domaine. Eh bien, nous allons ce soir, donc, bah oui, notre petite jingle n'a pas voulu se lancer, on va vous parler maintenant des films à l'affiche, des films que nous avons vus. Eh bien, ce soir, nous allons vous parler notamment d'une année italienne, le film de Laura Samani avec Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolizzi. Nous parlerons également de Backrooms de Ken Parson, le film fantastique qui fait le buzz actuellement. Et puis... La bataille de Gaulle, deuxième partie, J'écris ton nom, qui est sorti donc à la faveur de cette fête du cinéma. Alors, par quoi allons-nous commencer? Si nous commencions par exemple la bataille de Gaulle. Nous commençons par la bataille de Gaulle. Allez, allons-y comme ça. J'écris ton nom. Alors, c'est inspiré, me semble-t-il, d'un poème. De Paul Éluard, si je ne m'abuse. Évidemment, j'ai raison. Liberté. Hein, ouais. Donc, deuxième volet, cette fois-ci, qui concerne la période 1942-1944. Donc, en gros, jusqu'à la libération de Paris en août 1944. Bon, un petit peu au-delà, mais en gros, on est sur ce créneau. Et on voit là encore, dans cette deuxième partie, comment. Churchill et notamment Roosevelt ont cherché à écarter De Gaulle et voilà, et c'est pour ça que le film évidemment s'appelle La Bataille de Gaulle, parce qu'effectivement il a eu énormément de mal à s'imposer et en plus on apprend des tas de trucs dans le film. Alors je pense que c'est pour ça qu'il faut emmener les jeunes. Nous on le savait déjà un petit peu, hein, on connaissait pas mal d'éléments, mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant, je pense, pour ceux qui ne sont pas très au fait de l'histoire. Allez voir ce film. Alors parlons maintenant, on pourra peut-être parler du contenu, hein, tout à l'heure, mais parlons maintenant plutôt du film en tant que tel, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup comme de se déplacer, parce que comme un film qui dure 2h40, c'est un énorme budget.
Oui, qui c'est même en tout cas même durée que le premier, exactement.
Ah ben c'est exactement la même durée. Alors il y a des petits changements au programme, parce qu'évidemment il y a des comédiens qui apparaissent dans cette deuxième partie, comme Thierry Lhermitte dans le rôle du général Giraud. Entre autres, le focus est mis un petit peu plus, évidemment. Alors on se doutait que ça allait être développé parce que Jean Moulin apparaissait dans le premier épisode. Là, évidemment, il y a quand même, c'est un peu la particularité de cette bataille de Gaulle, c'est que, comme je l'avais dit pour le premier volet, il y a trois films en un. C'est-à-dire que vous avez le film de guerre avec ses scènes de bataille, le film de résistant, qui occupe une place importante, et puis le troisième film c'est un petit peu c'est le film politique, c'est-à-dire tout ce qui se passe en coulisses, la diplomatie, voilà.
Et en sachant que quand même dans l'entourage de Gaulle il y a des pierres angulaires, et donc Jean Moulin en fait partie, oui. Parce que sans lui forcément, une grande partie de l'histoire n'aurait pas pu s'écrire. Mais aussi Leclerc, qui est aussi...
Philippe de Hauteclocque, oui. Interprété par Nils Schneider, qui est vraiment très très bon. Mais d'ailleurs, en fait, je trouve que c'est évidemment, son personnage est assez développé, parce qu'il est important dans cette histoire. Surtout au regard de ce que préparent les Américains au moment du débarquement, on va pas en dire davantage, et il est vraiment formidable. Mais Thierry Lhermitte aussi, d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu la particularité et l'intérêt peut-être du film, c'est que le film a un ton un peu iconoclaste, pas seulement vis-à-vis de certains de ses personnages comme Giraud par exemple, mais De Gaulle aussi. Il y a des moments tragicomiques, on pourrait dire, il y a quelque chose comme ça qui est assez intéressant. et qui fait aussi le sel et l'intérêt du film. Le film, enfin, le scénario en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre bien un petit peu toutes les ambiguïtés. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu des fois s'accommoder voilà, de certaines choses. Le film montre un petit peu toute la complexité finalement de l'histoire, la complexité de la France, voilà. Donc ça c'est plutôt passionnant. Alors bon, au-delà donc du scénario qui est quand même pas mal, voilà, le film en tant que tel. Alors moi j'avais le premier film, j'avais trouvé quand même un petit peu longué. Celui-là est plus rythmé. Il y a des scènes de bataille plutôt bien réglées, notamment une scène de bataille avec des Panzer Division qui est vraiment assez spectaculaire. Donc un film plus rythmé avec peut-être aussi la musique, parce que la musique, mine de rien, j'avais pas été emballé par la musique du premier volet qui était composée par Volker Bertelmann. Là, c'est un nouveau compositeur qui travaille sur la suite. Il s'appelle Théo Cassio. C'est un jeune compositeur, hein, puisque je crois qu'il est né en 1997. Donc, il n'a pas tout à fait 30 ans. Il a une formation classique. Il a fait le conservatoire de Reims. Il a étudié la composition, tout ça. Il a travaillé surtout pour des documentaires jusque-là. Et je crois que c'est son premier long métrage de fiction. Voilà. Et là, il se donne les moyens parce qu'il est quand même un gros orchestre, et puis surtout il travaille vraiment non seulement la texture mais la voix. Il y a un gros travail sur la voix dans ce film, j'en dis pas plus. Et puis il y a aussi voilà, des mélodies, c'est-à-dire que autant le premier film, moi je trouvais que la musique était très fonctionnelle et finalement plutôt oubliable, là je trouve qu'il y a quand même un certain lyrisme dans la musique, c'est parfois même un peu épique. Le seul souci, moi, concernant la BO du film, c'est que j'avais la sensation parfois, parce que au début du film, il y a pas de générique début à proprement parler. C'est qu'à la fin qu'on connaît les crédits. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais qui a écrit la musique de ce film, de cette bataille de Gaulle, J'écris ton nom. Et je me suis dit à un moment donné, ah mais si ça se fait, c'est Hans Zimmer, parce qu'effectivement, il y a un son, il faut bien le dire, et même dans les mélodies, des fois, il y a un son Hans Zimmer. Et même l'orchestre, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce que j'avais l'impression que c'était un orchestre samplé à certains moments. Mais c'est vrai que si on reste sur tout le générique de fin, on s'aperçoit, non, qu'effectivement, il y a un véritable orchestre au grand complet. Voilà, mais c'est vrai que ça, du coup, bah voilà, je me suis dit, c'est soit Hans Zimmer, ou alors, voilà, c'est un émule de Hans Zimmer. Ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, je trouve que pour un premier film, une première fiction, Théo Cassio, c'est un nom vraiment à suivre. J'ai trouvé son travail très très intéressant sur la BO du film. Voilà, donc ça c'est quand même assez positif. Après, bon voilà, on retrouve la même qualité que la première partie. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est parfois la dimension docu-fiction. C'est-à-dire que, il y a des moments comme ça. Après, moi, j'ai rien contre le docu-fiction, si tu veux, mais bon, ce qui fait que ça l'élève au-dessus du docu-fiction, quand même, c'est que c'est filmé en scope. On voit qu'il y a d'énormes moyens. Alors, ça dépend des moments quand même. Hein, des fois, ils trichent un petit peu. Hein, et ça dépend de la façon de cadrer aussi. Tout dépend dans la façon de cadrer. Il y a des effets spéciaux numériques. C'est quand même, dans l'ensemble, je trouve que là, les effets spéciaux numériques sont plus réussis que dans le premier. Parce que dans le premier, j'ai trouvé notamment hein, au tout début à Paris, là, sous l'Arc de Triomphe, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Donc, en ce qui me concerne, voilà, j'ai passé un bon moment, 2h40, que j'ai pas vu passer. C'est toujours passionnant quand même.
Oui, et puis vraiment une belle réalisation fluide. Oui, oui. Franchement.
Malgré là aussi un début avec un montage alterné, ça m'a un peu inquiété, mais bon, finalement.
Je pense que c'est deux films qu'on peut voir bout à bout sans véritablement avoir une fatigue particulière, telle l'histoire de l'homme. Et est assez magnétique, et puis bon, c'est vrai que la distribution est impeccable en termes d'artistes. Franchement, je pense que c'est un casting sans faute, vraiment sans faute. et qui donne, je dirais, toute la le relief à, je dirais, au, à la grandeur du projet.
Voilà, bah écoutez, vous pouvez donc aller voir cette bataille de Gaulle, deuxième partie, J'écris ton nom, Liberté, bien sûr. Alors, Laurent, tu as vu un film italien, et voilà, une fois coutume, une fois n'est pas coutume, j'ai loupé ce film, je ne l'ai pas vu, donc je crois qu'il est encore en salle, justement, donc je vais t'écouter tout particulièrement, avec une grande attention, parce que j'aime le cinéma italien, tu le sais. Ce film, c'est Une année italienne, film de Laura Samani.
Voilà, deuxième long métrage de Laura Samani, qui avait déjà réalisé en 2022 Piccolo Corpo, pardon, et donc l'italienne. Imagine un scénario un petit peu hybride, né de l'amalgame de la trame d'un roman datant de 1929, donc Une année d'école, écrite par Gianni Stupariche, et d'éléments autobiographiques. Et donc son double à l'écran, c'est Fred, joué par Sheila Wendick, qui est vraiment phénoménale. Elle crève l'écran.
Oui, elle est tout à fait charmante.
Étudiante suédoise, transférée dans un établissement technologique du nord-est de l'Italie dans les années 2000. Et donc, au milieu de ce bouillonnement de testostérone, population lycéenne exclusivement masculine oblige, eh bien, un groupe de garçons l'apprend, si je puis dire, sous son aile, et les quatre compères de se lancer à corps perdu dans ces vagabondages adolescents où l'innocence n'a bientôt plus sa place. Et donc, il y a dans ce film Une année italienne quelque chose du teen movie américain et de son observation des premières vicissitudes amoureuses, mais aussi de ses récits d'apprentissage hérités des littératures naturalistes. Et donc, l'amertume de la désillusion est sublimée par une photographie jouant des contrastes d'ombre et de lumière, de creux et de plein, et lancé tout azimut, hein, au gré de ces clairs-obscurs essentiellement mélancoliques, et relevant parfois presque du pictural, eh bien, la bande d'interprètes amateurs, Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, pardon, et Samuel Volturno, eh bien, déniché par la réalisatrice et son directeur de casting, eh bien, ils crèvent l'écran. C'est vrai que vraiment, ils ont une présence qui est assez phénoménale. Et tout ça emballé avec une bande originale, eh bien, des Plutoniques, eh bien, on ne peut qu'adhérer. Parce que franchement, j'ai été. Je crois qu'ils m'ont vraiment entraîné dans leur balade, quoi.
Tu es tombé sous le charme.
Voilà, grand dépaysement pour ce film, grande surprise aussi. Franchement, c'est le film du moment, en tout cas dans le cinéma d'auteur. C'est vraiment le film à ne pas manquer. C'est Une année italienne. J'espère qu'il va, voilà, il va être diffusé bien encore à nouveau une semaine de plus, parce que franchement, c'est une très belle réalisation.
Eh bien, tu nous as donné envie d'aller voir cette année italienne. Allez, on termine cette chronique des films de la semaine avec Backrooms, le film de Ken Parsons. Adapté d'ailleurs de sa série, parce qu'en fait c'est un youtubeur, je crois, Ken Parsons, c'est un jeune youtubeur, et à l'âge de 16 ans il a eu cette idée finalement de Backrooms, et il en a fait un film d'ailleurs coproduit par A24, me semble-t-il, il a eu les moyens. Donc c'est quoi le pitch finalement de Backrooms, mon cher Laurent? c'est l'histoire, je crois, de Marc, qui est un architecte au chômage, on va dire. Puis, en fait, il tient une sorte de centre commercial. En fait, c'est pas un centre commercial, c'est un magasin de meubles, en fait. Ouais, c'est un magasin de meubles, mais qui ne marche pas du tout. Donc il y a personne finalement qui dans son c'est, d'ailleurs c'est un, ça pourrait être un film aussi sur la solitude ce, d'ailleurs je pense que le film Backrooms c'est un film sur la solitude de l'homme moderne homme et femme d'ailleurs donc il tient ce mec, cette boutique voilà, dans, mais voilà et tout d'un coup dans son sous-sol il découvre un passage dans un mur, il voit un truc un peu bizarre dans le mur, et puis comme le passe-muraille, eh ben, il passe à travers et il se retrouve dans une sorte de monde parallèle. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, il y a vraiment une interrogation sur cet univers. Est-ce que c'est un monde inversé, une réalité alternative? Est-ce qu'il est en enfer? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que... D'ailleurs, le film propose plusieurs interprétations possibles entre et ça va du fantastique à la science-fiction hein, d'ailleurs hein. Je vais pas vous en dire davantage mais voilà donc il se retrouve dans ce monde étrange qui est en fait une succession de pièces qui se ressemblent en fait des pièces voilà jaunâtres vide, pas forcément. Il y a des fois des objets qui jonchent le sol et pas que des objets. Il y a des choses, voilà, des choses étranges qui se passent voilà. Et donc il va se réussir à revenir dans le monde réel, dans notre réalité, et il va en parler à sa psychiatre parce qu'en fait il est suivi, hein, il est suivi par une psy. Et il va entraîner d'une certaine façon, il va entraîner sa psy dans son cauchemar. Alors, est-ce que j'ai un peu résumé vaguement le film ? C'est pas facile de parler de ce film.
Oui, il y a des films comme ça où c'est le pitch est un petit peu délicat.
C'est un peu délicat, parce qu'on va pas trop en dire aussi. Hein, voilà. Je vais te donner mon avis, Laurent, parce que évidemment tu as vu le film également. Non, tu n'as pas vu le film. Ah, bah alors, je pensais que tu l'avais vu. J'avais un petit peu peur, honnêtement, d'aller voir ce film, parce que je n'avais pas forcément eu des échos très positifs du film. Et bien, finalement, j'ai trouvé quand même le film plutôt bien réalisé. J'ai trouvé que les décors étaient plutôt bien exploités, parce que franchement, c'est pas un univers facile à filmer. C'est filmé en scope, hein, d'ailleurs, je précise, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les films en scope. Donc, déjà, c'était un plus pour moi. Et donc, je trouve qu'il arrive à créer une cohérence dans cet univers. Il y a un travail sur la mise en espace, vraiment, qui est assez réussi. Alors, les acteurs aussi, parce que ça contribue aussi. Le casting est formidable. Alors, j'ai oublié le nom des acteurs principaux. Il y a Chiwetel Ejiofor, je crois, dans le rôle principal, qui est formidable, qui joue d'ailleurs, qui vient de jouer dans le remake de L'Exorciste. Le tournage, d'ailleurs, de L'Exorciste, je précise, vient de s'achever il y a quelques jours. D'ailleurs, le titre de cette nouvelle itération, c'est Exorciste Martyr. Ouais, ça sortira en mars 2027. Donc, il joue dans ce film. On l'avait vu aussi dans The Life of Chuck, cet acteur noir américain, qui est vraiment très très bon. La psy également, je ne sais plus le nom de la psy, c'est une actrice nordique, je ne sais plus si elle est suédoise, je crois qu'elle est suédoise d'ailleurs. Enfin voilà, qui est très très bien également. Bon, bref, c'est assez angoissant. Je trouve qu'effectivement, on se prend au jeu et dans l'ensemble, il y a un côté, un petit côté lynchien, David Lynch. Tu vois, on pense à la pièce rouge dans Laura Palmer, des choses comme ça. Il y a un côté comme ça totalement étrange et angoissant. Alors après, en sortant de la salle, je me suis dit, bon, effectivement, c'est pas si mal. Et en y réfléchissant, je me suis dit, mais est-ce que le film va survivre à une deuxième vision? Parce que, voilà, est-ce que le film n'est pas un peu malin, quelque part? Parce que, voilà. Donc ça, je ne le sais pas. J'avoue que j'ai préféré ça à Obsession, qui est un autre film fantastique qui fait le buzz. Donc je me dis que là, on a quand même un film qui fonctionne bien, qui franchement mérite le détour. Après, je reviendrai peut-être sur mon jugement, quand je l'aurai vu une deuxième fois. Il faut que je me fasse un deuxième avis là-dessus. Mais c'est vrai que... Alors, on peut peut-être trouver le temps long, parce que c'est vrai que finalement, il se passe pas grand-chose. Hein. Ne vous attendez pas à avoir des effusions de sang. Il y a quand même... des créatures étranges, notamment une dans le film, mais voilà, c'est un film qui prend son temps d'une certaine façon, parce que à mon avis, le vrai sujet du film, c'est ça, C'est-à-dire que c'est ce personnage, le personnage principal, pourquoi vit-il seul, qu'est-ce qu'il a raté, et c'est un personnage aussi qui évolue. Alors j'en dis pas plus également. Bon, voilà, vous pouvez donc aller voir ce Backrooms qui est assez déconcertant, et si je crois que si vous êtes fan en tout cas de la série sur le web, je pense que vous allez vous y retrouver. Et Ken Parson, en tout cas, il est à suivre. C'est là aussi un youtubeur comme le réalisateur d'Obsession. C'est curieux, cette nouvelle génération qui arrive là. Et on termine notre... est-ce qu'on a tout dit? On a parlé de la bataille de Gaulle, on a parlé de une année italienne, et nous avons parlé de Backrooms. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour, en tout cas, pour ce soir, des films dont nous souhaitions vous parler. Donc, vous pouvez aller voir les trois. Voilà, on me dit comme ça, pas de jaloux. Faut en profiter là, de profiter de la fête du cinéma justement. Pour y aller, puisque là en plus, vous allez profiter de la fraîcheur des salles et en plus à moindre frais. Voilà. Mon cher Laurent, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale?
Une petite pause musicale concernant. Encore un western. Cette fois-ci, on va remonter quelques années, 1971. Ah. Voilà. C'est un western, un classique, où on retrouvait un acteur incontournable, suivi un peu toute sa famille, hein, parce qu'il y avait. Son fils, le petit-fils de la famille Wayne.
Eh oui,
John Wayne, Patrick Wayne, Ethan Wayne, Richard Boone, Christophe Mitchum.
Ah oui, il y avait les fils d'eux finalement.
Maureen O'Hara, Bruce Cabot,
très beau casting. Harry
Junior, Glenn Corbett, vraiment du lourd pour ce film Big Jake. Et la musique signée Elmer Bernstein, un grand classique du western. Et là, eh bien, la musique est dirigée par Elmer Bernstein en personne, qui dirige l'orchestre symphonique d'Utah. Mmh. Et on va écouter l'ouverture de Big Jake, et qui va être vraiment phénoménal. C'est court, mais vraiment,
mais c'est bon.
Voilà, c'est concis. Voilà, il y a rien à redire.
Ah, mais c'est oui.
Du grand Bernstein, comme on l'aime. Allez, c'est parti, et on se retrouve pour vous annoncer. Ben, il est sorti à partir de mercredi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? On ne sait pas, mais on va chercher. Allez, tout de suite, Big Jake.
Eh bien, c'était donc la musique d'Elmer Bernstein pour le western Big Jake, avec John Wayne dans le rôle principal. On ne s'en lasse pas, Elmer Bernstein, d'ailleurs, qui aura laissé son nom dans l'histoire du cinéma en composant la musique d'un western mythique, Les Sept Mercenaires. Voilà, donc ouais, il s'est fait un nom dans le western, Elmer Bernstein. Pas seulement, mais c'est vrai qu'il a fait de grands westerns, notamment avec John Wayne. Et bien maintenant, c'est l'heure de vous annoncer les films qui vont sortir sur nos écrans à partir de mercredi. Alors, on va vous annoncer quelques films. Évidemment, l'été arrive avec sa cohorte de blockbusters, vous le savez. Donc, vous savez d'ailleurs que le 7 juillet, c'est-à-dire pas ce mercredi, mais la semaine prochaine, le premier gros blockbuster de l'été arrive, c'est L'Odyssée, dans la version de Christopher Nolan. Et on l'attend avec impatience, évidemment. Mais mercredi, donc, mon cher Laurent, qu'est-ce qui se passe sur nos écrans ?
Eh bien, on va pouvoir voir une comédie d'Eric Fraticelli avec Cadmerade, Patrick Timsit. C'est permis de détruire. Voilà.
Oui, alors, c'est-à-dire que moi, j'avais vu le film précédent de Fraticelli, c'est parce que ça se passe en Corse. Voilà. C'est plutôt sympathique, quand même. Hein.
Oui. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas des redites par rapport au film que l'on a pu voir le même sujet.
C'est ça.
Autre film, là, blockbuster oblige, film de Craig Gillespie, Supergirl.
Ah oui, alors effectivement, un ton iconoclaste, là aussi, un peu comme ce que James Gunn avait fait avec Superman, j'imagine. Donc la Supergirl, c'est la girl badass, comme on dit. Hein. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas.
Autre film de Alain Riberst, c'est Un champ de fraises pour l'éternité, qui sort mercredi.
Très beau titre.
Oui. Le petit pitch, on va dire que Radio Pomsky, qui livre donc sa dernière bataille, cultissime radio locale, lovée dans un camping, elle ressemble à celle et ceux qui y résident à l'année, et que la vie a cabossé, et donc chacun va se battre pour sauver ce lieu menacé de fermeture. Voilà. Et on va dire que ça fait partie des sorties. Alors, autre sortie plutôt là au cinéma art et essai, on pourra voir un film d'animation très attendu, In Waves. Et donc là, le film s'annonce très très fort. Donc forcément, on ne le manquera pas dans Cinéscopie.
Ouais. Au passage d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de Toy Story 5. Bon, à juste titre, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, nous, dans l'émission, mais parce que, il n'a pas besoin de nous pour exister, Toy Story 5, évidemment. Tout comme Les Mignons, hein, qui sont des films très sympas, super bien faits. Mais il y a un film à voir, quand même, à Limoges, actuellement, c'est Jim Queen. Donc, on n'en a pas parlé, mais on le signale, quand même.
Oui. Très bel accueil pour ce film d'animation, et aussi très original. Donc c'est oui, c'est à voir. Autre film, Miss Mermaid de Pauline Brunner avec Aloïse Sauvage, Thomas VDB et Alison Wessler. Voilà. Donc
une histoire de sirène.
En fait, c'est l'histoire de Fanny, fraîchement divorcée, donc une trentenaire. Qui ne garde de son mariage qu'un canapé en sky et des dettes qu'elle refuse de payer. Et donc, malgré un besoin ardent de liberté, eh bien, cet employé de ménage s'enlise, et jusqu'au jour où elle croise la route d'Anémone, une sirène professionnelle de passage dans la région.
Ah, d'accord. Ben, c'est peut-être pas mal pour voir ça. Il y a un bon casting.
Oui, oui, oui. Ensuite, il y a un autre film, comédie dramatique, Notre Histoire, chronique du Caire, de Abbé Chowski, qui raconte l'histoire On est au Caire en 1967, d'Ahmed, qui est un pianiste obstiné dans une famille qui ne jure que par le football et qui reçoit une lettre en provenance d'Autriche. Et donc, Lise a répondu à son annonce pour devenir sa correspondante. Autre sortie, donc à partir de mercredi, on pourra aussi voir Laissez-nous les clés, donc qui est un documentaire qui en fait aborde la malbouffe, hein, avec McDonald's, et donc la vie au sein de ce McDonald's, en France. Voilà, c'est un documentaire. Autre film, eh bien, qui est là aussi peut-être à découvrir, hein, quand même, c'est le film, on l'appelait Robin des Bois, avec Hugh Jackman, Jodie Corner.
Oui, alors, une version là aussi, parce que sur Robin des Bois, il y a eu des tas de versions. Je me souviens notamment une version aussi assez surprenante avec Sean Connery et Audrey Hepburn, hein, qui était pas mal. Donc là, j'imagine aussi, c'est une autre approche. Bon, pourquoi pas. Puis Jackman, Jodie Comer, voilà, un duo intéressant.
Eh bien, c'en est tout pour en fait les sorties sur Limoges. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est ce qu'on pourra voir mercredi. Sur nos écrans Limougeaux.
Parfait, eh bien, je te remercie, Laurent. Je te remercie aussi pour avoir assuré la technique aussi brillamment durant toute cette saison. Hein, et ça n'a pas toujours été facile.
Et non. Il y a quelques petits embûches, hein, toujours.
Toujours.
C'est le propre de la technique.
Voilà.
Ce n'est pas une nuit, c'est pas la vie et l'enfeuve tranquille.
Exactement. Voilà.
Mais bon, c'est ce qui fait un petit peu la richesse, hein, du quotidien.
Exactement. Eh bien, je vais te souhaiter, tout d'ailleurs, comme à nos auditeurs et nos auditrices, un excellent été. Pas forcément d'excellentes vacances, parce que je crois que tu ne veux peut-être pas les prendre tout de suite, mais en tout cas, un bel été.
Voilà.
De beaux films au cinéma aussi.
Oui, on va se le souhaiter ensemble. Hein, parce que...
Ouais, voilà.
je pense qu'on va y fréquenter quand même les salles obscures pendant cet été. Voilà, ça et là, au rythme des différentes sorties qui vont.
J'allais dire au rythme des différentes phases de canicule qui risquent de se produire.
Ça, c'est autre chose.
Bon, c'est autre chose. En tout cas, oui.
En tout cas, là, c'est vraiment assez magique parce que c'est vrai que vous n'êtes pas dans le studio et on voit la pleine lune ardente dans des tons totalement orangés. C'est magnifique.
C'est super, voilà.
On a une vue sur cet astre magique, voilà, un petit peu habillé de nuages. Ça va prolonger en fait la soirée. Et nous, on va essayer de la prolonger en musique, hein, pour essayer de vous distraire.
On écouterait bien un petit Debussy, là, tu vois.
Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est prévu, en tout cas, à l'antenne.
Non, effectivement. En tout cas, je vois que tu es d'humeur poétique. Bon, Charles-Laurent, eh bien, sur ces belles paroles, nous allons vous quitter pendant ces 2 mois d'été. On se retrouvera fin septembre, début octobre, pour une nouvelle saison consacrée au cinéma, à la musique de film, avec Cinéscopie.
Voilà, fidèle au poste.
Voilà, et pour l'heure, on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de la station, une excellente semaine.
Oui, passez donc à mon tour un bel été qui vous apporte chaleur.
Oui.
Et farniente, peut-être.
Oui, voilà. Un petit peu de farniente, ça serait bien aussi.
Et donc, nous, on se donne rendez-vous à la rentrée.
Exactement.
Allez, passez en tout cas de très très belles vacances. Et en plus de cela, allez fréquenter les salles obscures.
Oui.
Parce que c'est pas parce que vous êtes en vacances qu'on va pas pointer. Hein.
On va
contrôler. On va contrôler. Allez. À la rentrée, bonne soirée et portez-vous bien.
Ciao, ciao.